Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Henri Bergson est né à Paris en 1859. Son père, juif d'origine polonaise, était pianiste et compositeur et s'était installé en France avec sa femme d'origine anglaise. Bergson, très discret à son égard, vouait à sa mère une profonde admiration, une femme très intelligente, une mère très aimée de ses 7 enfants. On connaît le parcours de Bergson. Il fit des études très brillantes au lycée Condorcet, entra à l'école normale supérieure en 1878 et fut reçu dans la foulée à l'agrégation de philosophie au rang de second, juste après Jean Jaurès qui en fut le lauréat en 1881. Sa carrière d'enseignant exemplaire aboutit à sa nomination au Collège de France en 1900, où il occupa la chaire de philosophie grecque et latine. À cette date, il avait déjà publié 2 de ses œuvres majeures, son essai sur les dossiers immédiats de la conscience, titre de sa thèse de doctorat, et « Matière et mémoire ». Suivront « L'évolution créatrice » en 1907 et « Les deux sources de la morale et de la religion ». Ses contemporains avaient de lui la plus haute estime, qu'on songe à Paul Valéry, à Charles Péguy, à René Doumy, qui est bien loin de ses pointures intellectuelles. L'homme est populaire, on vient du tout Paris et de l'Europe entière pour écouter ses conférences et ses discours. Qu'on songe à une personnalité comme Sacha Guitry, qui dans son livre de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain faisait figurer l'illustre philosophe comme un exemple du génie français. Élu dès 1901 à l'Académie des sciences morales et politiques, Henri Bergson est entré à l'Académie française en 1914. Il reçut en 1928 le prix Nobel de littérature et fut élevé en 1930 à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Soucieux de l'actualité de son temps, il joua un rôle diplomatique durant la Première Guerre mondiale et œuvra à l'entrée en guerre des États-Unis auprès des pays de l'Entente, de la France donc. Il influença probablement la théorie des 14 points de Wilson. On sait sa fin et sa lucidité sur le sort de ses contemporains juifs à la fin de sa vie. Bergson avait refusé de se convertir au catholicisme devant la montée en France de l'antisémitisme, souhaitant partager avec ceux de sa communauté de naissance le sort que leur réservaient les lois raciales de l'Allemagne nazie et plus tard celles de Vichy. Dès 1937, il écrit « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme, où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés, mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Il meurt à 81 ans dans la France du maréchal Pétain, ayant renoncé à tous les honneurs que les autorités françaises lui proposaient et s'étant fait inscrire sur les listes du commissariat de son domicile pour porter l'étoile jaune. » Le discours de Paul Valéry de l'Académie française en plein hiver 41, quelques jours après sa mort, rend hommage à l'homme et son œuvre, disant, je cite, qu'il était l'orgueil de notre Académie, qu'il fut toujours, selon Paul Valéry, le dernier grand nom de l'histoire européenne, un grand ami parmi les hommes, disait Paul Valéry. Bergson n'aimait pas qu'on mêle des éléments de sa personne privée à l'examen de ses travaux. Alors abordons sans plus tarder avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques la pensée de Bergson à travers un de ses ouvrages les plus célèbres, « L'évolution créatrice », paru en 1907 et dont on fête en 2007 le centenaire de la publication. Avec moi aujourd'hui Olivier Dilly, agrégé de philosophie, complice de cet entretien à deux voix, interview avec moi Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques. Bernard Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Olivier Dilly.
Bonjour.
On va alterner les questions entre vous et nous, Bernard Bourgeois, pour offrir à nos auditeurs l'émission la plus complète possible sur l'évolution créatrice, dont bien entendu, nous ne prétendons pas faire le tour en une heure. Bernard Bourgeois, qui était Bergson? Un philosophe comme les autres? Un philosophe du 19e ou du 20e siècle? Qui était Bergson?
Quelqu'un qui a fort bien parlé sur Bergson, je veux parler de Charles Péguy, a présenté Bergson dans sa fameuse note sur Bergson et la philosophie bergsonienne, un peu avant la guerre de 1914, et il a présenté Bergson comme le grand révolutionnaire de la philosophie française et de la philosophie universelle, étant donné la place de cette philosophie française dans la philosophie universelle, une place que Bergson lui-même a désignée comme la première. La philosophie française a été de loin la plus inventive, ça a été une succession absolument continue de vues originales, et cette philosophie française, pour Peggy, elle a été révolutionnée par Bergson. Qu'est-ce que c'est qu'un révolutionnaire? C'est celui qui introduit dans la culture et dans la pensée une idée simple. Et c'est ça qui constitue le génie. Eh bien, Bergson, dans son premier ouvrage, L'essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889, s'est présenté lui-même comme un révolutionnaire et a présenté sa philosophie non pas comme une philosophie du 19e siècle ou du 20e siècle, mais comme une philosophie des nouveaux siècles après une très longue errance qui a commencé à Platon et qui, aux yeux de Bergson, s'achève à lui-même. Et alors, je voudrais, si vous voulez, verser un petit peu dans l'anecdote, rappeler une coïncidence étonnante. En 1889, année de l'apparition de l'essai sur les données immédiates de la conscience, paraît un autre livre qui est le best-seller de l'année. C'est Le Disciple de Paul Bourget. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que dans Le Disciple, Bourget présente, enfin, c'est ce destin tout à fait horrible d'un jeune professeur de philosophie qui avait été élève du lycée de Clermont, où Bergson avait commencé sa carrière, où Paul Bourget avait également des attaches familiales. Un ancien vétéran du lycée de Clermont-Ferrand, s'adonnant à la philosophie, est mêlé à une affaire tout à fait grave, le suicide d'une jeune fille dont il était amoureux. Et ce jeune homme avait eu comme maître le professeur Adrien Sixte, qui était, aux yeux de Bourget, réuni en une même personne Herbert Spencer, l'évolutionniste, positiviste, matérialiste, et Emmanuel Kant, l'idéaliste agnostique. Cette conjonction du positivisme matérialiste associationniste de Spencer, qui ignore ce que c'est qu'un sujet ou qu'un moi, et du philosophe du moi, mais du moi idéal, idéal, irréel, qu'est Kant, qu'est aux yeux de beaucoup le moi de Kant, ce philosophe qui réunit en lui ces deux héritages passe pour le responsable finalement de ce destin d'un de ses disciples. Or, ces deux mouvements, l'achèvement du mouvement matérialiste, objectiviste, l'évolutionnisme de Spencer, et d'autre part, le mouvement inauguré par Kant, ces deux mouvements, en leur conjonction, constituent pour Bourget tout ce que la philosophie française, tout ce que la philosophie universelle a de négatif. Or, ce sont exactement ces deux courant que Bergson, dans l'essai, dès l'essai sur les données immédiates de la conscience, dénonce comme le résultat d'une philosophie qu'il convient d'achever et de remplacer. Cette philosophie, c'est la philosophie qui ignore cette belle unité de l'unité et de la multiplicité dans la vie de l'esprit que Bergson va lui-même identifié à l'absolu, et cette unité qui n'est pas la multiplicité pure, comme pour l'associationnisme, ni l'unité pure, comme pour l'idéalisme kantien, mais une unité multiple, une multiplicité une, la multiplicité qualitative et non pas quantitative, qui pour Bergson définit l'esprit et qu'il analyse d'abord sous l'aspect de la durée. Bergson considère que c'est une innovation fondamentale. Jusqu'à maintenant, la philosophie a ignoré le temps qu'elle a réduit à l'espace parce que la philosophie a simplement couronné la pente naturelle de la pensée, qui est d'être utile à l'action, laquelle a affaire à la matière, c'est-à-dire à la division, à la dispersion, et par conséquent ignore cette continuité du multiple qu'est le temps. Bergson considère qu'il faut identifier désormais l'absolu à la durée ou au temps, et c'est ce qu'il considère comme la révolution que la philosophie doit faire. Donc, ce n'est pas un philosophe du 19e, ce n'est pas un philosophe du 20e, il est le philosophe de la durée, c'est-à-dire de l'esprit, conçu selon sa nature profonde, laquelle a été constamment, depuis des siècles, depuis même des millénaires, renversée, inversée dans la spatialité qui est évidemment socialisante, alors que l'esprit doit d'abord prendre possession de lui-même. Donc, alors, c'est un révolutionnaire à ses propres yeux. Est-ce qu'il l'a été réellement? C'est un autre problème et il faut en parler. En tout cas, il s'est bien présenté comme tel. Il n'a pas voulu être un disciple. Il n'a pas voulu être un héritier.
Alors, quelle est l'image de Bergson aujourd'hui, en général?
L'image de Bergson est une image tout à fait positive. Nous évoquions tout à l'heure la fréquence des rééditions de ses œuvres. C'est tout à fait considérable. Bergson reste présent aujourd'hui. C'est sans doute un des philosophes les plus présents à la culture de notre époque, et la culture française en particulier. On lit, on relit, les jeunes lisent et relisent aujourd'hui Bergson, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ses illustres contemporains. Blondel, dont l'ouvrage « L'action » de 93, un peu postérieur à l'essai de Bergson, Blondel, Braunschweig, qui a régné si longtemps comme le philosophe de la réflexivité critique, le philosophe du jugement, Braunschweig n'est plus lu, Bergson, lui, est toujours lu.
Alors, quelle est son image auprès des philosophes d'aujourd'hui?
Alors, son image est celle d'une sorte de d'achèvement de la philosophie dans la direction que Bergson a ouverte, mais il faut bien dire que cet achèvement signifie aussi une clôture. Bergson, je crois qu'on peut le dire, n'a pas fondé d'école. Il n'a pas fondé d'école. Il y a des Bergsoniens, de nombreux Bergsoniens, vous en avez évoqué quelques-uns dans le passé, il y en a encore aujourd'hui. Moi-même, j'ai la plus grande admiration pour Bergson, et je peux vous dire, si vous permettez une indiscrétion, que lorsque j'étais professeur de philosophie dans un lycée, je recommandais à mes élèves, s'ils lisaient un livre de philosophie, en dehors des lectures obligées, les grandes lectures traditionnelles, le discours de la méthode, et des choses de ce genre, s'ils n'en lisaient qu'un, je leur conseillais de lire les deux sources de la morale et de la religion. Mais, encore une fois, Bergson n'a pas fondé d'école. Ce qui d'ailleurs n'aurait pu que le décevoir. À vrai dire, il ne souhaitait pas avoir des disciples, c'est-à-dire fonder une école, mais animer, au moins à ses débuts, toute une communauté de philosophes. Il souhaitait que la philosophie, se dégageant de la pente naturelle de l'intelligence, c'est-à-dire de la recherche solitaire.
Oui, c'était pour une démarche collective.
C'est ça. Pour au contraire, emprunter une nouvelle voie, les philosophes ne menant pas chacun pour lui-même une entreprise s'appuyant sur une certaine identité de la pensée, de la réflexion philosophique avec la rhétorique et le langage, s'enfermant dans les jeux de la dialectique que chacun peut mener à l'intérieur de lui-même, il souhaitait que les philosophes, au lieu de continuer à s'affronter dans leur démarche ou leur dialectique singulière, constituent une véritable communauté de chercheurs, communauté entre eux, communauté entre eux d'une part et les observateurs, comme il dit, c'est-à-dire les savants, une communauté dans laquelle le travail collectif qui devait y être mené aurait été un travail amenant des résultats progressifs et non pas à une succession de thèses s'annulant les unes les autres. Bergson souhaitait, mettre en œuvre cette nouvelle communauté philosophique, mais s'étendant également aux savants, de telle sorte que la philosophie, au lieu d'être un perpétuel recommencement de pensée individualisée, puisse constituer un corpus, un corps dans lequel l'apport des philosophes, l'apport des observateurs, des chercheurs, des savants constituerait un seul et même corps de vérité et de propositions certaines. Mais cela ne s'est pas instauré de telle sorte que Bergson est l'objet chez beaucoup d'une très grande admiration, mais certains vont même jusqu'à dire que le bergsonisme a été une impasse, puisque le bergsonisme s'est finalement réduit à Bergson lui-même.
Alors, il a souhaité plus une communauté qu'une école. En 1907, au moment de la parution de l'ouvrage « L'évolution créatrice », où en est Bergson? Sa pensée est reconnue déjà, très acceptée.
L'essai sur les données immédiates de la conscience a surpris.
Oui.
A surpris par ce qu'on considérait comme une confusion de la psychologie,
oui,
et de la métaphysique. À savoir,
ça,
à partir d'une analyse psychologique, c'était le problème de la signification de l'intensité des états de conscience, des sensations. À partir d'une investigation psychologique, élaborer déjà une vision de l'absolu, et cette première vision de l'absolu était que l'absolu était une durée, cette durée qui était l'étoffe des choses et que nous expérimentions, que nous pouvions expérimenter en nous-mêmes, si nous étions capables de remonter la pente de l'intelligence qui a conduit celle-ci à s'identifier dans son exercice avec le langage, avec sa rhétorique, avec la manipulation des mots comme si ceux-ci étaient séparés à l'image des objets sur lesquels l'intelligence se modèle, puisque précisément sa première fonction pour Bergson est d'agir, sa destination est essentiellement l'action. Mais l'action bouche la représentation, bouche la spéculation. Par conséquent, cette nouvelle manière de philosopher, de faire de la métaphysique, en s'appuyant sur les données d'une science ou de ce qui voulait être une science, la psychologie, a beaucoup surpris, alors qu'on distinguait assez rigoureusement, c'était dit dans Roche Lachelier, la psychologie est la métaphysique. Mais Bergson a surpris.
Il était stigmatisé comme un philosophe à part.
Je voudrais encore dire, avant de répondre à votre question,
oui,
que sa notoriété parmi les philosophes, en dépit d'une certaine incompréhension, et je voudrais dire, ici rappeler cet autre mot de Peggy, que Bergson a été aussi mal compris de ses ennemis que de ses amis. En tout cas, la publication de Matière et mémoire, son deuxième grand ouvrage, est spéculativement parlant peut-être le plus original, aussi le plus difficile, Matière et mémoire a frappé les esprits, bien sûr. C'est quand même l'évolution créatrice qui l'a fait connaître davantage, aussi hors des frontières de France. L'ouvrage a été traduit en anglais, Par conséquent, le bergsonisme a été connu. En ce qui concerne les réactions à cette œuvre de Bergson, et pour préciser ce que vous souhaitiez voir préciser, à savoir l'image de Bergson dans le public français, je dois dire que les réactions ont été multiples. Un certain nombre, et même parmi des gens dont on pouvait penser qu'ils étaient tout à fait favorables à Bergson, un certain nombre, et c'était évidemment la chose la plus insupportable pour Bergson, n'ont pas voulu voir d'originalité véritable dans l'évolution créatrice. Par exemple, Émile Boutroux.
Oui.
Émile Boutroux, dont certaines recensions quant à l'ouvrage de Bergson, soulignaient que lui-même avait déjà dit ce que Bergson dirait, qu'il avait déjà introduit des thèmes comme le thème de la contingence des lois de la nature. Alors certains donc ont dit, mais Boutroux avait déjà anticipé Bergson. Boutroux lui-même, dans son texte sur l'histoire de la philosophie française depuis 1867, date à laquelle s'est arrêtée la grande histoire de Ravaisson, Boutroux évoque le bergsonisme. Mais sans beaucoup s'attarder, il consacre un bien plus long développement, par exemple, à Athènes et à Renan,
D'accord.
ou à Durkheim encore.
Ah, là.
Et lorsqu'il évoque un certain nombre de philosophes qui ont été en même temps des savants ou des philosophes qui ont voulu élaborer une philosophie scientifique, ils ne citent pas le nom de Bergson. Par conséquent, première réaction, une originalité peut-être insuffisamment reconnue. Il y a eu des articles et des textes tout à fait favorables, mais il y a eu aussi, après la parution, dans les années qui ont suivi, il y a eu des attaques très violentes, en particulier l'attaque de Maritain.
Oui, Jacques Maritain.
Maritain, le thomiste, que Peggy d'ailleurs vise manifestement lorsque il défend Bergson. Il défend Bergson, en dit-il, si l'on comprend que ses ennemis aient pu dire du mal à son sujet, on comprend moins que ceux qui auraient dû être ses amis aient dit encore plus de mal que lui. Et il évoque ses philosophes spiritualistes, par exemple les thomistes, qui se sont opposés à cette révolution par laquelle Bergson avait épuré la notion de l'esprit, en libérant celle-ci de tout ajout et de toute défiguration provenant de l'intelligence fabricatrice et de la pente de cette intelligence. Alors, Peggy défend Bergson contre ces spiritualistes qui ont même contribué à faire mettre les œuvres de Bergson à l'index. Bergson trahi par ceux-mêmes qui auraient dû célébrer son intervention. Alors, Maritain, oui, Bergson fait le procès de l'intelligence. Il est vrai que Bergson a fait toujours le procès de l'intellectualisme, qui réduit la pensée à l'intellect, c'est-à-dire à sa déformation, à la déformation de la pensée en raison de sa destination pratique ou pragmatique. Alors, Maritain, donc, dénonce la critique que Bergson fait de l'intelligence, l'intelligence qui, selon Maritain, est ce qui nous fait saisir l'être en sa vérité. Pour Bergson, c'est évidemment la saisie de l'être renvoie à une démarche plus profonde de l'esprit, à ce qu'il appellera l'intuition, etc. Eh bien, Maritain est très sévère. Qu'est-ce que c'est que l'évolution créatrice? Qu'est-ce que c'est que le bergsonisme? C'est l'héraclitéisme, le devenir, l'absolu comme devenir. Alors, c'est Héraclite, matiné de quelques apports schopenhauériens et schellingiens. Voilà ce que c'est que Bergson. Et encore une fois, donc, les réactions ont été fort diverses. Bergson, en tout cas, n'a peut-être pas été lu de façon suffisante. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de malentendus. Il est vrai qu'on a pu incriminer aussi le langage de Bergson, qui n'est pas un langage purement conceptuel.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant. Canal Académie.
Imaginons Bernard Bourgeois, un jeune étudiant de philosophie en 1907 qui suivrait les cours du philosophe au Collège de France. Qu'attend-il? Que vient-il entendre? Quelles sont ses attentes?
Alors, la question est une question un peu délicate parce qu'elle consiste à me demander quelles étaient les attentes du public philosophant à l'époque, quelles étaient les attentes, donc quelle était son insatisfaction devant la philosophie qui était à l'époque enseignée. Quelles attentes? La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été marquées en France, dans la culture française et peut-être dans la philosophie proprement dite, par une grande vague de pessimisme. C'est l'époque où Schopenhauer, qui avait écrit pourtant au début du siècle, c'est l'époque où Schopenhauer est lu en France, est connu en France. Paul Bourget, que j'évoquais tout à l'heure, dans ses tout à fait remarquables essais de psychologie contemporaine, un livre qu'il faudrait relire, Paul Bourget fait le procès de ce qu'il appelle le nihilisme français, l'affirmation que l'absolu est plus ou moins, touche plus ou moins au néant, si je puis dire. Ce nihilisme était assez dominant et ce n'est pas la philosophie positiviste ou matérialiste, ce n'est pas cette philosophie qui tendait à faire, chez certains de ses représentants, de l'esprit un épiphénomène qui pouvait guérir un esprit ainsi méconnu de ses pessimismes ambiants. Ça n'était pas non plus la philosophie régnante à l'université, la philosophie réflexive, la philosophie héritière de Kant, mais selon un héritage tout à fait français. Je pense en particulier à des gens comme Lagnau, je pense à, bien entendu à Braunschweig et à d'autres qui, par son style d'extrême rigueur, d'intellectualité extrême, cherchant les conditions rendant possible ou rendant légitime telle ou telle pratique, telle ou telle activité conscientielle, ce n'est pas cela qui pouvait répondre à ce souci éprouvé à l'époque et qui touchait à ce que l'esprit avait de plus concret. Alors, on attendait peut-être autre chose qui puisse permettre de dépasser un pessimisme qui pouvait s'alimenter à d'autres sources. Bon, un message philosophique permettant de dépasser donc la philosophie intellectualiste, soit sous son visage objectiviste, matérialiste, positiviste, ou sous son visage réflexif ou idéaliste. Alors, il y avait quelqu'un qui pouvait constituer, aux yeux de certains, un recours contre cet éloignement de la vie et du concret qui marquait en particulier la philosophie, enfin aux yeux de beaucoup, la philosophie universitaire. Quelqu'un qui était lui aussi en dehors de l'université, c'était Alain. Et Alain, je me souviens que, évoquant ses années de formation et de jeunesse, Hippolyte, Jean Hippolyte, l'hegelianisant, mais qui était tout à fait attaché à Bergson. J'ai eu la chance de suivre de lui, dans les années 50, un cours sur Bergson à la Sorbonne. Hippolyte disait que deux penseurs français avaient dominé la première moitié du XXe siècle, Alain et Bergson. Tous les deux, en marge de l'université stricto sensu, en dehors de la Sorbonne.
Heureusement que le Collège de France existe.
Le Collège de France, Bergson et Alain, le professeur de Cagnemé, le chroniqueur dont l'aura médiatique était importante. Mais Alain, c'était le penseur du jugement et du jugement critique. Aux yeux de certains, cette intervention alinienne n'était peut-être pas suffisamment concrète. Juger, oui, se révolter, oui, mettre en question la rébellion, très bien. Mais ce que beaucoup de jeunes en particulier pouvaient attendre, c'était qu'on leur propose non pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui permette à quoi une adhésion fût possible et peut-être que Bergson leur fournissait la chose. Et puis surtout, Bergson permettait de dépasser par son message le pessimisme ambiant, car le bergsonisme, c'est une philosophie de l'optimisme. C'est une philosophie optimiste. Nous atteignons le réel. Nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas comme un écolier en pénitence dans un coin de l'univers. Quel que soit le réel, nous en sommes. Et ce réel, c'est un réel positif. C'est un réel, non pas de destruction, c'est un réel de création. Bergson apportait, si vous voulez, ce message d'optimisme qu'un nouveau siècle, en sa jeunesse en particulier, ne pouvait attendre. Voilà, me semble-t-il, quelques remarques que l'on peut faire sur l'image qui a été celle de Bergson lors de son intervention donc au début du siècle.
Alors Bernard Bourgeois, je voudrais faire une petite lecture d'un extrait de l'introduction de l'évolution créatrice. Alors, je vais en faire la lecture tout de suite, puis après on va rentrer dans le sujet. Notre pensée sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie nature de la vie, la signification profonde du mouvement évolutif. Créé par la vie, dans des circonstances déterminées, pour agir sur des choses déterminées, comment embrasserait-elle la vie dont elle n'est qu'une émanation ou un aspect ? Déposée au cours de route par le mouvement évolutif, comment s'appliquerait-elle le long du mouvement évolutif lui-même ? Autant vaudrait prétendre que la partie égale le tout, que l'effet peut résorber en lui sa cause, ou que le galet laissé sur la plage dessine la forme de la vague qu'il apporta. De fait, nous sentons bien qu'aucune des catégories de notre pensée, unité, multiplicité, causalité mécanique, finalité intelligente, etc., ne s'applique exactement aux choses de la vie. Qui dira où commence et où finit l'individualité, si l'être vivant est un ou plusieurs, si ce sont les cellules qui s'associent en organisme ou si c'est l'organisme qui se dissocie en cellules. En vain nous pensons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent, ils sont trop étroits, trop rigides, surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Bernard Bourgeois, alors comment penser le vivant ? Comment peut-on dire que c'est la question fondamentale que se pose Bergson ?
Écoutez, oui, mais je voudrais souligner un aspect peut-être plus profond de l'objet essentiel du bergsonisme. Je crois, et là aussi, Peggy, me semble-t-il, l'a bien vu. Bergson, c'est essentiellement quelqu'un qui a voulu penser. Et j'ai même tendance à mettre « penser » entre guillemets, puisque il faut se méfier de la pensée étant donné cette charge négative que le philosophe n'a pas su relever, n'a pas su dépasser pendant des siècles, à savoir sa défiguration par la destination pratique de son usage premier qui rabaisse la pensée à être simplement l'intellect. En tout cas, Bergson a voulu penser avec toute la puissance de la pensée, non pas simplement sa destination intellectualiste, sa perversion intellectualiste, il a voulu penser la liberté. Dans les toutes premières pages de l'essai sur les données immédiates de la conscience, la brève introduction, Bergson souligne que ce dont il est question pour lui, dans ce premier ouvrage, et il en sera question dans tous ses ouvrages, c'est la question de la liberté, dont il s'agit d'affirmer la réalité en tant qu'elle est objet d'expérience et sans doute l'objet le plus fondamental, le plus radical de l'expérience. Encore s'agit-il de bien saisir ce que l'expérience offre, à savoir que la liberté est, si je puis dire, une potentialité toujours présente, une tendance, qu'elle est libération et qu'elle n'est jamais sans doute totalement réalisée, mais nous y reviendrons ultérieurement, puisque le réel pour Bergson est fait de deux tendances antagonistes. En tout cas, c'est la liberté. C'est la liberté, et la liberté, Bergson la voit présente comme la conscience. Déjà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le texte l'évoquait, dans les tout premiers moments de la vie. À travers l'analyse du vivant, Bergson analyse la liberté à laquelle la vie est coextensive. Il y a des degrés de la vie, il y a des degrés de la liberté, mais liberté, conscience et vie, c'est la même chose. Mais cela, Peggy l'a bien dit, et je voudrais vous lire ce court passage de la note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne. Une philosophie comme la philosophie bergsonienne, essentiellement libérale et libertaire, et non pas seulement par système, mais de cœur et de race, ne pouvait naître qu'en français et en terre et culture française. La liberté française pouvait seule avoir un cas qui serait la liberté bergsonienne. Et c'est aussi, conclut Peggy, et c'est aussi pour cela qu'elle est tout ce qu'il y a de plus opposé à la pensée allemande.
Oui.
La pensée allemande, qui, à la différence de la pensée française, n'a pas pour principe ou pour notion plus expressive d'elle-même la liberté, mais l'empire, la domination. Et Kant, évidemment, est impliqué autant que les autres dans cet esprit allemand. Alors, aucune véritable philosophie de la liberté, ni même aucune pensée véritable de la liberté, n'a jamais pu naître en Allemagne, mais en France. Elle devait naître, et c'est la philosophie bergsonienne. Et je crois qu'il faut insister sur ce point. La philosophie bergsonienne, c'est une immense philosophie de la liberté, mais saisie dans ce qu'elle a de plus concret.
Olivier Dilly, je vous passe la parole.
Alors, justement, dans l'introduction à l'évolution créatrice, Bergson nous dit que le présent essai, là, je cite, « ne vise pas à résoudre tout d'un coup les plus grands problèmes. Il voudrait simplement définir une méthode et faire entrevoir sur quelques points essentiels la possibilité de les appliquer. Donc, il ne s'attache pas à construire un système, mais à définir une méthode, nous dit-il. » Donc, s'agit-il d'un geste inaugural pour Bergson? Et ceci nous conduit en quelque sorte à une double question. Quelle est cette méthode et en quoi est-elle nouvelle?
Alors, c'est une question importante. Il est certain que Bergson, comme tous les grands révolutionnaires en philosophie, a voulu inaugurer, je le disais tout à l'heure, une démarche totalement nouvelle. Ça a été le projet de tous les plus grands, et Bergson veut inventer, si je puis dire, une métaphysique nouvelle dont j'ai déjà donné quelques caractéristiques tout à l'heure. Cette métaphysique élaborée par toute une communauté de penseurs et d'observateurs, de gens qui réfléchissent et de gens qui s'informent. Cette métaphysique qui doit être une métaphysique n'ayant pas toujours à repartir du même point pour échouer dans les contradictions. Métaphysique qui se développe comme un vivant en intégrant de plus en plus tous les apports qui ont pu être proposés. Une métaphysique qui doit donc remplacer la métaphysique traditionnelle, soit en sa version objectiviste ou positiviste, celle qui s'était développée de façon si intense en France, avec le positivisme et avec ce qui a suivi, soit dans sa version, disons, subjectiviste, idéaliste, réflexive. Il faut élaborer une métaphysique qui, comme la science ou comme les sciences, s'appuie toujours de façon ininterrompue sur la réalité telle que celle-ci se donne dans l'expérience, soit l'expérience externe, extérieure, objective, quantifiable, mesurable, dont les sciences sont la première expression, mais dont le sens intéresse également le philosophe, soit l'expérience interne, l'expérience de l'esprit, l'expérience de la durée, de cette durée que Bergson a identifiée à l'esprit lorsqu'il a précisé dans Matière et mémoire que l'esprit était fondamentalement mémoire, c'est-à-dire durée, d'une certaine façon. Et il faut donc élaborer une science qui s'appuie sur l'expérience externe et interne, et surtout, car ça a été le plus négligé, sur l'expérience intérieure. Une expérience intérieure dont l'expression a été illustrée en France par celui qui est peut-être par le rang le troisième grand philosophe français après Descartes et Malebranche, c'est Maine de Biran. Maine de Biran qui cherche et trouve, croit-il, l'absolu en lui-même à travers l'expérience de l'effort, c'est-à-dire du vouloir concret, du vouloir incarné. Et c'est cette expérience interne qui échappe aux sciences, parce que les sciences œuvrent de l'intelligence fabricatrice qui se moule sur la matière, c'est-à-dire sur l'extériorité, sur la division, ne peut pas saisir l'intériorité même, qui est cette multiplicité qualitative, c'est-à-dire une unité concrète, qui est la durée ou qui est l'esprit. Donc, la métaphysique nouvelle doit être une métaphysique empirique, non pas une métaphysique qui seulement réfléchit, par exemple pour justifier la possibilité sur le contenu des sciences empiriques, mais qui elle-même n'a pas de contact immédiat, ne veut pas avoir de contact immédiat avec l'expérience, soit la métaphysique, qui ne se présentait pas comme telle, elle préférait se présenter déjà comme une physique, mais une physique généralisée, une physique universelle, la métaphysique positiviste ou matérialiste, qui, elle, voulait simplement prolonger, pour en énoncer, par exemple, les principes généraux, la matière qui avait déjà été élaborée par les sciences positives. Au contraire, une métaphysique qui soit empirique, à la différence de la métaphysique réflexive de type idéaliste, mais une métaphysique empirique qui ne soit pas la simple reproduction de l'empirie scientifique, empirie ayant pour contenu la matière, ce qui est divisé, etc., l'idéalisation mathématique de la matière, mais qui est pour objet une expérience spécifique qu'elle seule pouvait comprendre et exprimer, à savoir l'expérience intérieure de la durée ou de l'esprit. Métaphysique, donc, de part en part empirique. Et une métaphysique qui devait être également originale, tout comme elle l'était par son objet, par son contenu, à savoir l'esprit, qui fut également originale par sa démarche. C'est-à-dire qui ne soit pas essentiellement appuyée sur l'intelligence ou l'intellect, qui lui n'est à son aise que dans la matérialité sur laquelle nous devons agir, mais qui soit appuyé sur ce que Bergson appelle l'intuition, c'est-à-dire ce contact direct avec les choses. Et les choses ici, c'est l'esprit qui est plus substantiel, dont l'étoffe est plus solide que celle de la matière. C'est ce qu'il y a de plus résistant, l'esprit. La durée, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus substantiel, etc. Eh bien, cet esprit, il faut le saisir donc par un contact direct, l'intuition, une intuition qui est bien stimulée par l'intelligence, parce que l'intelligence, pour Bergson, comme elle n'est pas rivée à un contenu particulier, mais à la forme universelle du contenu de l'extériorité ou de la matière, l'intelligence, parce qu'elle est liée à des formes, peut se libérer de son contenu. Elle peut s'arracher un peu à elle-même, elle peut libérer d'elle-même, devant les échecs auxquels son exercice, enfin absolument naïf et non critique, peut conduire, et par conséquent, elle a cette capacité de se dépasser elle-même et de comprendre qu'il faut faire appel à autre chose qu'elle, et cette autre chose, c'est l'intuition. Donc, métaphysique, qui a pour objet le contenu spirituel de l'expérience, l'intériorité, la durée, etc., et qui a pour objet ce contenu et qui a pour sujet la pensée en tant qu'elle est supra-intellectuelle et qu'elle se concentre, se condense dans l'intuition. Ce qui ne veut pas dire que la métaphysique ne doit pas faire appel à l'intellectualité, car l'intellectualité qui peut se libérer d'elle-même, et c'est pourquoi on ne peut pas dire que Bergson soit un adversaire de l'intelligence, comme Maritain, il est l'adversaire de l'absolutisation, de la fossilisation de l'intelligence. Mais l'intelligence doit nécessairement intervenir, parce que ce que nous apporte l'intuition, ce contact avec l'esprit dans ce qu'il a de plus intérieur, et qui est, il faut le dire, non seulement le mouvement qu'elle a duré, mais avec, si je puis dire, l'accomplissement de ce mouvement. Et l'accomplissement de ce mouvement, c'est la volonté. C'est la volonté, Bergson le dit dans un discours de distribution des prix, je crois, de 1902 au lycée Voltaire, que le principe fondamental, même de l'intelligence, c'est la volonté. Eh bien, la volonté, qui est l'esprit dans sa plus grande concentration, la volonté arrive par une sorte de torsion sur elle-même, à se saisir immédiatement. C'est ça l'intuition. Mais cette torsion sur elle-même qui illumine l'esprit, ne dure que quelques instants et par conséquent, il faut bien que l'intelligence prenne le relais, en particulier pour exprimer le contenu de l'intuition à travers ses concepts, pour le diffuser, pour le communiquer aux autres. Mais évidemment, sans jamais se laisser aller à cette détente qu'est la dialectique, qui n'arrive plus à maintenir la concentration de l'intuition, ne pas se laisser aller à cette détente qu'est la dialectique, parce qu'alors on perd de contact avec le réel, on s'enferme dans le possible, aux interprétations les plus opposées du phénomène de l'esprit, et par conséquent, il faut sans cesse se raccrocher à des points plus fermes, à des points extérieurs. Donc voilà, je crois, ce que c'est que la métaphysique bergsonienne. Une métaphysique qui doit être aussi certaine que la science, et qui peut l'être parce que précisément, elle n'a pas le même objet, l'intérieur et non pas l'extérieur.
Olivier Zilli.
Alors justement, à propos de cette expérience intérieure, on ne peut pas être sans penser ici à laisser sur les données immédiates de la conscience, que vous avez évoquées à nombreuses reprises déjà. En quoi cette méthode qu'il évoque ici dans l'introduction de l'évolution créatrice est-elle nouvelle en comparaison de celle évoquée déjà dans laisser sur les données immédiates de la conscience? Ou pour le formuler autrement, de manière plus générale, comment passe-t-on de la vie intérieure à la vie en général, de la psychologie à la cosmologie, ce qui va être l'objet ici de l'évolution créatrice?
J'entends bien. Je pense que ce passage, est-ce qu'on peut même parler d'un passage? Parce qu'en réalité, il s'agit, ce qui pourrait apparaître comme une généralisation, voyez, une extension, mais de ce qui peut également être considéré comme un approfondissement. Saisir en soi sa propre durée, mais saisir à travers elle la durée de l'univers, et même saisir, si vous voulez, à travers cette durée de l'univers, et c'est un thème que Bergson développera plus tard, mais qui est déjà présent dans l'évolution créatrice, ce qui est au principe de l'univers, la source spirituelle de jaillissement constant de l'univers, que Bergson, plus tard, mais c'est déjà en filigrane dans l'évolution créatrice, caractérisera comme un Dieu libre et transcendant. Donc, extension et généralisation, ce qui fait que Bergson lui-même affirme la continuité entre ces trois grands ouvrages. L'essai, écrit-il dans une lettre au père de Tonquédec en 1912, l'essai a pour objet le fait de la liberté. Je le dis d'un mot, la liberté n'est possible, si vous voulez, et n'est réelle que comme durée. Parce que la liberté pour Bergson consiste, pour l'être libre, à exprimer dans ses actes le tout qu'il est lui-même, c'est-à-dire l'unité de la multiplicité qu'il est et qui se vit sous l'aspect de la durée. Alors, je ferme cette parenthèse, le fait de la liberté, le fait de la durée, le fait de la totalité intérieure, matière et mémoire, la réalité de l'esprit. Bon, la durée et mémoire et l'esprit et mémoire, c'est-à-dire présence absolue à lui-même en tout ce qu'il a rempli. Voilà pourquoi pour Bergson, il n'y a pas à chercher où les souvenirs se conservent, ils n'ont pas à se conserver parce que ils font partie de la présence à soi, qui est le présent spirituel, qui n'est pas le présent effectif, puisqu'il faut l'inscription dans la matérialité, mais cette présence à soi, totale de lui-même. En droit, sinon en fait, mais c'est bien le droit qui importe. 1907, l'évolution créatrice, l'objet, le fait de la création, à tous ces niveaux. Non seulement au niveau du « moi », non seulement au niveau de l'univers, mais au niveau de l'être lui-même. Parce que le concept, si vous voulez, le concept de vivant désigne, à la différence des objets proprement matériels, qui sont liés à l'intervention de l'intelligence qui les découpe en fonction des exigences de l'action. Les êtres vivants sont des êtres qui sont clos et séparés par la nature elle-même, c'est-à-dire de véritables unités. de véritables individualités. Plus ou moins, parce que Bergson est l'homme des degrés. Vous voyez, il voit des degrés dans l'individualité. L'individualité absolue, si vous voulez, bon, c'est une limite. Elle est plus ou moins intense. En tout cas, il voit trois sortes d'individus ou de tout. Les êtres conscients, l'organisme vivant singulier, végétal, jamais surtout animal, parce qu'il peut se mouvoir, et puis le tout de l'univers. Non pas des compartiments de l'univers, mais le tout de l'univers. Tels sont les trois grands vivants finis. Le tout de l'univers, les êtres vivants singuliers et les moi ou les êtres conscients. Alors, si vous voulez, ce sont trois niveaux, ou parlons comme Bergson, trois plans du réel. Voyez, le plan psychologique, si j'ose dire, le plan biologique et le plan cosmologique. Mais il s'agit de trois degrés d'une seule et même réalité qu'on peut appeler la vie, c'est au milieu, c'est baignant, qu'on peut appeler l'esprit également, ou qu'on peut appeler le réel. La durée, dit Bergson, elle fonde notre être, et nous le sentons bien, la substance même des choses avec lesquelles nous sommes en communication. Voyez, par une sorte de sympathie, informée par l'expérience externe aussi, nous sentons que ce qui est en nous est aussi chez tous les vivants et chez le grand vivant. Dans les deux sources de la morale et de la religion, il étendra explicitement cette affirmation de la vie sur la base d'une nouvelle expérience, expérience mystique, en la faisant s'appliquer aussi à la vie infinie, pas la vie finie, la vie infinie dont il écrit au père de Tonquédec qu'elle est celle du Dieu libre, transcendant, créateur du monde, c'est-à-dire de la matière et de la vie, si on reste à son sens, pour désigner la vie finie, même de l'univers.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Canal Académie.
Olivier.
Alors, abordons cette question de la vie en général. Dans l'évolution créatrice, Bergson va s'intéresser à ce que nous dit la science. Quelle est la place, je sais qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais si on peut préciser ici, quelle est la place des sciences dans la philosophie de Bergson et en particulier dans l'évolution créatrice?
Alors, Bergson déclare à plusieurs reprises que nul plus que lui n'a souligné l'importance, la réalité des sciences. Les sciences ont pour objet ce que fournit l'expérience extérieure. Elles ont pour objet ce que fournit l'expérience extérieure, qu'il s'agisse de l'expérience de la matière, de l'expérience de la vie, de l'expérience de la vie sociale. Enfin, si je puis dire, la matérialité est partout, dans toute l'extension de la vie, à tous les niveaux de la vie. Il y a de la matérialité toujours, voyez, parce que la vie telle que nous la connaissons, la vie finie, elle est faite de ces deux mouvements opposés, le mouvement, un mouvement de jaillissement, un mouvement de retombée, on y reviendra peut-être. Alors, les sciences, elles, contrairement à ce que, par exemple, le kantisme affirmait aux yeux de Bergson, les sciences touchent le réel lui-même. Elles ne sont pas une connaissance relative, parce que l'être est dans le phénomène. L'être est dans le phénomène, ça veut dire que pour Bergson, entre l'expérience physique et la réalité spirituelle la plus développée dans l'ordre du fini, la réalité morale, il y a une continuité. Le réel, le plus en soi, si je puis dire, l'esprit, le plus esprit, il est dans le phénomène. Il n'y a pas un en soi et des phénomènes. Les sciences qui s'en tiennent au phénomène, bon, la quantité, qui le mesure, les sciences touchent l'absolu. Parce que l'être est d'une seule étoffe s'il est animé par deux tendances, et c'est pourquoi, à chaque plan de lui-même, il est et on le saisit. Les sciences ont une portée absolue. Et les sciences qui ont cette portée absolue sont, je le disais tout à l'heure, j'y reviens un court instant, sont à distinguer radicalement de la métaphysique ou de la philosophie, en sa version rénovée. La science, les sciences ont pour objet ce qui est mesurable, le quantitatif, la diversité, l'extériorité réciproque, la matière, et la métaphysique a pour objet aussi l'être lui-même, mais en son intériorité, voyez, en son jaillissement, en tant qu'esprit. Mais si les sciences doivent être distinguées radicalement, il ne peut pas y avoir de concurrence entre les sciences. La métaphysique commence là où les sciences finissent. Elles ont chacune comme objet un plan particulier de l'être, de ce qui est ou de l'univers. Mais si elles sont très différentes, et comme elles ne se concurrencent absolument pas, elles ne peuvent que se consolider les unes les autres. Et elles doivent travailler dans une pleine collaboration. Le philosophe doit être informé des acquisitions scientifiques. Et le savant doit bien philosopher pour ne pas être amené à demander à sa science ou aux sciences ce qu'elles ne peuvent pas lui fournir, à savoir une signification et une portée métaphysique, ce qui a été oublié par le positivisme, etc. Mais cette collaboration fait que le philosophe doit être un philosophe informé. Bergson a eu des disciples, et parmi les disciples immédiats, des savants, Édouard Leroy, par exemple, qui lui a succédé au Collège de France. Bon, par conséquent, Bergson est un de ceux qui ont le plus insisté sur la nécessité. Et il en fait une spécificité dans son ouvrage de 1915 sur la philosophie française, sur la spécificité française, à savoir maintenir un lien intime entre les philosophes et les savants. Ça n'a pas été le cas chez nos voisins allemands, chez lesquels, dit-il, les grandes métaphysiques idéalistes, ont été le fait de gens qui non seulement ne pratiquaient pas la science, mais n'étaient pas tellement informés, n'en tenaient pas bien compte. Entre parenthèses, Bergson ici doit être corrigé dans tous les sens du terme, parce que quelqu'un, tenez, permettez-moi quand même de l'évoquer une fois, quelqu'un comme Hegel avait une culture et une formation scientifique tout à fait exceptionnelles. En tout cas, pour Bergson, c'est la spécificité française. La philosophie française, pour Bergson, a trois originalités. Une formelle, elle parle clairement. Et de ce point de vue-là, Bergson a donné évidemment le meilleur des exemples. Elle parle clairement. Deuxièmement, elle fait une grande place à la psychologie. Et Bergson surabonde, puisque l'absolu, finalement, il est quoi ? Esprit, c'est-à-dire psychologique. Et troisièmement, la philosophie française s'est toujours considérée comme devant se lier de manière intime aux sciences. Par conséquent, Bergson pense pouvoir, sur cette base, réconcilier les choses et il donne des exemples. Lorsqu'il étudie dans l'évolution créatrice la signification du transformisme, qui est, selon lui, vérifié de plus en plus par l'expérience scientifique, dont la probabilité est de plus en plus grande. Il s'interroge de façon très précise sur les données des théories scientifiques, le néo-darwinisme, la solution d'Aimer, le néo-lamarckisme. De même, lorsque dans Matière et mémoire, il analyse les relations entre l'âme et le corps, l'esprit et la matière, il le fait à partir d'une investigation sur la signification de la mémoire, sur la relation de la mémoire et de la perception, sur la portée des aphasies, etc. Donc, lui-même met en pratique ce qu'il a théorisé, à savoir que l'absolu ne peut être connu en tous ses niveaux, en tous ses plans, que par une liaison intime entre le travail des savants et le travail des philosophes. Et c'est un des thèmes dont la Société française de philosophie naissante, dont Bergson avait été un des créateurs, même s'il n'y a pas paru très souvent, s'il n'a pas participé très souvent, Bergson a mis en pratique ce qu'il avait ainsi théorisé, le lien absolument nécessaire des sciences et de la métaphysique ou des philosophes.
Alors justement, un concept est au cœur de l'évolution créatrice, qui est le concept d'élan vital. Après avoir justement exposé, comme vous venez de l'évoquer, des théories scientifiques autour de la question de l'évolution, en quoi ce concept d'élan vital permet-il de dépasser l'opposition entre d'un côté le mécanisme et d'un autre côté la finalité?
C'est toujours le même adversaire que Bergson a à vaincre, c'était celui dont il était question dans l'essai sur les données immédiates d'agence, celui que Bourget avait parfaitement saisi dans cet ouvrage contemporain de l'essai, l'associationnisme, le mécanisme. Les éléments sont les principes, ils agissent les uns sur les autres, ils s'associent, ils s'appellent, etc. Comment peut-il y avoir une unité? Comment peut-on échapper au hasard? Comment des éléments hétérogènes, d'emblée séparés, peuvent-ils s'associer de façon à créer des unités qui aient un sens, des corps, des individus, etc. L'autre adversaire, c'était, toujours le premier adversaire, à savoir le finalisme, celui même que Kant avait cru pouvoir affirmer en l'épurant, la finalité interne, l'organisme. Ici, une unité en quelque sorte présupposée. Une unité présupposée, même si Kant dit le contraire. J'ai pas le temps d'insister sur la critique que fait Bergson de l'affirmation kantienne que la finalité interne échappe aux difficultés de la finalité externe. Pour Bergson, on ne peut pas les dissocier l'une et l'autre. Et ça revient donc à présupposer, pour expliquer ce qui est, pour expliquer le fait que le multiple est quand même unifié dans l'espace, dans le temps. Il y a des organismes qui durent. On ne peut avoir recours ni au finalisme, ni à l'associationnisme. Le finalisme est moins mauvais. De toute façon, on ne peut vraiment pas l'éviter. On est toujours plus ou moins finaliste parce que la notion de fidélité est constitutive de la notion de sens, l'identité d'une différence, et par conséquent, il est bien difficile d'évacuer le concept de finalité dans un discours qui veut être sensé. Mais en tout cas, il suppose une fin qui commande par avance l'unification des éléments. Par conséquent, le finalisme et l'associationnisme ne peuvent pas rendre compte de la réalité et de la réalité stable, la réalité solide de ces tout que sont les êtres vivants et le grand vivant qu'est l'univers. C'est d'ailleurs très compliqué. Et Bergson prend des exemples dans l'évolution créatrice. Soit un canal. Comment a-t-il pu naître? L'associationnisme dira, on a apporté de la terre, on a accumulé des éléments qu'on a empilés entre lesquels on a laissé un passage, on a laissé un trou. Le finalisme dira, il y a eu un projet, etc. Et le lit du fleuve s'est donc constitué de cette façon. Dans l'un et l'autre cas, on ne peut pas rendre compte, si vous voulez, de l'organisation et de l'harmonie des choses, sinon par une complication qui n'explique rien. En réalité, pour comprendre pourquoi, par exemple, lorsque vous mettez la main dans de la limaille de fer, vous faites un geste au sein de cette limaille, bon, et si vous fixez la chose, si vous enlevez la main, comment expliquer le trou qui a été fait avec sa forme? Bon, l'associationnisme partira des rapports entre chacun des points de l'image, etc. On n'en sortira pas. Le finaliste dira, ben, il y a eu une finalité ici, il y avait un projet élaboré, ce qui annule d'ailleurs la créativité de la vie elle-même. Non, l'essentiel, c'est de comprendre que cette figure qui a été dessinée dans la matière est simplement le résultat du geste de la main qui a pu se déployer en tournant les obstacles de la matière et en limitant celle-ci, si vous voulez, geste très simple, résultat compliqué, l'élan vital est cette notion qui permet à Bergson d'expliquer sans complication extrême toutes les structures que revêtent les choses, que revêtent la matière, que revêtent les organes, pourquoi l'œil est-il, il y a toute une analyse de l'œil, pourquoi l'œil est-il constitué de la même manière, l'élan vital, c'est donc, si je puis dire, la durée ou l'esprit en son expression active, agissante. Mais une action qui n'a rien d'une fabrication. Parce que la fabrication consiste à disposer des éléments donnés d'abord. L'élan vital consiste pas à unifier, voyez, à réunir du séparé. C'est au contraire l'unité qui est à la base. Et qui s'exprime à travers la durée, à travers l'esprit, c'est l'unité qui se différencie. Le mouvement essentiel de la vie et de l'élan vital pour Bergson, c'est pas la réunion, c'est pas la compilation, donc l'unification postérieure du multiple, c'est une différenciation de soi, de ce qui est d'abord identique. Un élan simple, qui s'extériorise et qui retombe en une multiplicité. Car cet élan vital, en réalité, il résulte de deux tendances. La vie, d'ailleurs, pour Bergson, comme l'esprit, n'est pas faite de choses toutes faites. La vie, comme l'esprit, n'est pas d'ordre chosiste. C'est un mouvement, c'est-à-dire un processus, ou un progrès, comme le dit Bergson, ou une tendance. Voyez, l'élan vital, c'est une tendance qui se déploie. Et cette tendance, en réalité, elle est la résultante de deux tendances antagoniques. Une tendance positive et une tendance négative ou freinante. L'élan vital, d'ailleurs, aussi bien au niveau de l'organisme singulier que du tout de l'univers, que du moi qui agit. L'élan vital, c'est un élan fini. Bergson insiste sur ce point. L'élan vital est fini. Il est limité. Pourquoi? Ben, d'abord, parce qu'il agit dans une matière sur laquelle il travaille. La destination de la vie, c'est d'agir sur la matière. C'est d'introduire de l'indétermination dans la matière qui est la diversité, la détermination et la limitation même. Et elle fait obstacle. Mais surtout, pour Bergson, l'élan vital en lui-même, il est en quelque sorte la condensation première, ou plutôt l'unité première, dont la richesse est constituée par une multiplicité de tendances qui ne peuvent qu'accuser leurs différences au fur et à mesure que cet élan vital se déploie. Il y a un certain antagonisme dans l'élan vital entre, si vous voulez, ces différentes orientations possibles qui font que la vie va se réaliser dans des lignées différentes, la branche des arthropodes, la branche des vertébrés, etc. La branche des vertébrés qui n'ont que l'instinct et ceux qui ont l'intelligence. Et ce qui fait que il y a donc, il faut le dire, une dualité. Bergson dit un contraste, il n'ose pas dire une contradiction. Ce pourquoi on lui reprocha, Hippolyte le lui reprochait déjà, à savoir que le bergsonisme n'a pas vraiment reconnu la contradiction, la négation, la négativité à son aspect tragique. Non, c'est un optimisme et par conséquent, Bergson tempère l'affirmation de l'antagonisme ou de la négativité qui est intérieure à l'élan vital en parlant simplement de contraste, voyez, d'accord, ou de divergence. Alors, je dis bien pour l'élan vital, fini. Ça ne vaut pas pour l'élan vital qui est au principe de cet élan vital fini. Est-ce qu'on peut d'ailleurs encore l'appeler vital, cet élan, à savoir le jaillissement divin de la pluralité des branches.
Vous venez de nous montrer comment, en quelque sorte, opère l'élan vital, en quoi il s'agit plus d'une théorie philosophique.
Je dois dire d'ailleurs que ceci n'est pas d'une clarté totale chez Bergson.
Justement, c'est le point que...
Bon, mais là, je dis mon admiration pour Bergson, je tais un peu les réserves. On ne peut pas ne pas savoir, et vous y venez d'ailleurs.
Oui, je crois que vous allez pouvoir les exprimer, bon. Parce que justement, en parlant d'élan, ici, Bergson semble nous proposer une image.
Oui.
Donc, pourquoi le choix d'une image? Pourquoi celle-ci? Vous évoquiez là justement le trouble qu'on peut évoquer
face... Je voudrais dire, alors, vous faites très bien de poser cette question. Bergson dit que l'élan vital, qu'on pourrait appeler l'élan spirituel d'ailleurs, ou l'élan de la conscience, parce que vie... conscience, esprit, sont finalement désignent la même chose. Bon. L'élan vital, dit-il, il est visible partout. Il est visible partout, ça veut dire il est expérimentable partout. Mais ce qui nous le fait expérimenter, c'est peut-être plus de l'ordre du toucher ou du toucher interne que de l'ordre de la vision et de la vision extérieure. Nous le saisissons en nous-mêmes, dès que nous agissons. Dès que nous agissons, nous vivons. C'est difficile de le penser, de le réfléchir. Nous vivons cet élan vital, imprévisible, nouveauté, créativité. Alors, il est expérimentable. Nous n'expérimentons même que cela. Si nous faisons attention à nous-mêmes, c'est-à-dire si nous nous détachons un petit peu de l'attention à la matière et à la vie et à l'action qui nous sollicite. Mais, bon, il faut quand même bien dire ce contenu de l'intuition. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Comment? Alors là, je fais une distinction qui me semble devoir être faite entre symbole et image. Le langage symbolique, c'est le langage mathématique, mathématisable, etc. C'est-à-dire qui exprime le contenu de l'expérience par des signes qui, en eux-mêmes, sont complètement artificiels et n'ont rien à voir avec ce contenu. Les symboles mathématiques, par exemple. Le langage symbolique ne doit pas être le langage philosophique ou la philosophie, la métaphysique doit user le moins possible des symboles. Mais il est difficile d'exprimer le contenu, par exemple, de l'élan vital dont nous avons l'expérience. Il est difficile de l'exprimer par des concepts. Les concepts, d'abord, les concepts les plus communs. Bon, les concepts prétendent bien, par leurs relations les uns aux autres, et même si elles sont extérieures, dire un peu cette interaction universelle, ce mouvement totalisant qui définit l'être. Mais les concepts ont pour support des mots. Et le langage a d'abord été fait pour permettre l'action sur la matière. Le langage, il est de l'ordre de l'intelligence, il est de l'ordre de la fabrication. Il ne peut jamais oublier complètement cette origine. Alors, il faut employer des mots, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais dont le contenu renvoie le plus possible à ce qu'il y a de concret dans l'expérience. Et ce contenu, c'est celui des images ou des métaphores. Et il y a l'image de la gerbe. L'image de la gerbe, et j'aurais voulu vous lire un texte, mais je ne le trouve plus là, où Bergson dit bien que l'image la plus prégnante de l'élan vital, c'est celle de la gerbe, vous voyez, de ce qui retombe. L'intensité du jet qui retombe en multiplicité, voyez. Alors, employer des images, mais en ayant toujours présent à l'esprit le danger qui est celui du langage, c'est d'ailleurs un point sur lequel Bergson n'est pas actuel. Il n'y a pas de tournant linguistique pour lui. Et je dois dire, dans une certaine mesure, on n'a pas tellement à s'en plaindre. Non. Le langage, l'esprit se réalise, s'inscrit dans la réalité qui est aussi matérielle. Il s'y inscrit, entre autres, par le langage, bien sûr. Il ne peut pas s'en passer, mais il ne doit pas réduire la pensée au langage, c'est-à-dire finalement à l'intelligence. Par conséquent, être très méfiant et toujours penser que l'image elle-même, la métaphore elle-même, doit se méfier d'une tendance qui ne peut pas non plus l'épargner, à savoir la pente vers la séparation du contenu de la pensée et vers le langage de l'intelligence.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Écoutez Canal Académie.
Est-ce que justement ces métaphores, ces images ont été à l'origine des malentendus ou des interprétations différentes de la pensée de Bergson par les uns et les autres ou pas?
Je ne sais pas, parce que Peggy insiste et j'y reviens encore une fois. Bergson est un rationaliste. Comment peut-on philosopher sans être rationaliste? Même l'irrationaliste qui s'affirme tel le fait bien dans le langage qu'il veut le plus cohérent, le plus clair, le plus organisé possible. Vous comprenez? C'est un rationaliste. Les métaphores sont présentes, mais il utilise aussi le langage conceptuel, enfin l'évolution caractéristique, comme tous les autres personnes, sont de magnifiques ouvrages en concept. Il utilise les concepts pour dire ce qui ne peut pas et ne doit pas être complètement réduit au concept, à savoir une interrelation très, 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 très précise, pour ne pas dire rigide, mais enfin, il faut savoir de quoi on parle, entre les concepts. Voilà pourquoi Bergson, nous évoquions Hegel tout à l'heure, Bergson a une formule qui est presque celle de Hegel, il faut des concepts fluides. Fluidifier les concepts, mais on fluidifier les concepts même contre la fixité des images, parce que les images elles-mêmes peuvent se figer. Par conséquent, l'exercice très difficile qu'est le discours philosophique, où Bergson a excellé, on n'en a pas parlé, mais tout Bergson est là, enfin, le langage.
Oui.
Le langage extraordinaire, c'est c'est très beau, ce qui ne dispense pas des interrogations. Nous évoquions celles qu'on pouvait soulever à propos de la signification de l'élan vital et de la signification du contraste en lui. Alors, il essaie de surmonter en disant que le négatif est dû simplement à l'interruption du positif. S'il y a une retombée, c'est parce que la poussée s'arrête. Mais pourquoi s'arrête-t-elle? Vous comprenez?
Oui.
Bon. En tout cas, on ne peut assez célébrer, enfin, le style de Bergson.
C'est oui, étonnant. Effectivement, très très beau passage. On aura l'occasion de lire même tout à l'heure. Alors, si on revient encore sur cette question d'élan vital qui est vraiment au cœur ici de l'évolution créatrice, dans la mesure où la vie est créatrice, l'homme ne semble pouvoir être la fin de la nature. En effet, affirmer que l'homme serait la fin de la nature reviendrait, semble-t-il, à contredire immédiatement les idées d'imprévisibilité, de création, de nouveauté à propos de la vie. Donc, on se posait cette question ici, quelle est la place de l'homme dans cette évolution? A-t-il une place privilégiée?
Il est exact que l'intelligence, la voie particulière coexistant avec les autres, celle de l'instinct, etc., la voie de l'intelligence semble la voie royale, parce que l'intelligence, elle est capable, pas souvent, mais elle est capable, et de libérer d'elle-même. C'est quand même l'intelligence qui institue l'intuition, cet instinct sublimé, désintéressé, qui l'institue au-dessus d'elle, et comme ce dont elle doit être la servante, parce qu'on ne peut pas, pour communiquer, etc., on ne peut pas ne pas dialectiser, plus ou moins, l'intuition. Alors, c'est vrai que l'intelligence est une réussite exceptionnelle, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin de l'élan vital? Vous l'avez dit vous-même, Olivier Didier, pas de finalisme qui, présupposant au mouvement son but, comme sa norme, supprime en réalité ce mouvement de la nouveauté, de l'imprévisibilité, etc. Bergson le dit, c'est une façon de parler que de dire que l'intelligence, la voie de l'intelligence, est la voie finalement royale. Il n'y a en réalité, dit-il, qu'un certain courant d'existence et le courant antagoniste. Vous voyez, la montée et la retombée. Le positif et le négatif. De là, toute l'évolution de la vie. La vie a son moteur, non pas dans sa fin ou dans une fin, elle a son moteur dans sa source. Bergson n'est pas le philosophe des fins, c'est le philosophe des sources. L'unité, dit-il, n'est jamais en avant. Elle n'est jamais en avant. Elle est en arrière. C'est la poussée qui est originairement une. Ce n'est pas une unité finale qui bloquerait tout, qui supprimerait le jaillissement continu, divin, de la nouveauté. Par conséquent, c'est une façon de parler que de dire que l'homme est une fin. Non, non, l'évolution de la vie, elle se fait par la poussée originelle de celle-ci, par l'unité qui est au principe, à la source, et non pas à la fin. Et puis d'ailleurs, il faut dire que l'homme, c'est bien, mais enfin, c'est pas toute la richesse de l'être, parce que toutes les autres branches qui ont dosé de façon différente la proportion entre l'instinct et l'intelligence, par exemple, qui existent toujours, ces autres directions ont apporté quelque chose qui ne subsiste pas dans la voie de l'intelligence, même si celle-ci s'entoure toujours d'instinct. Parce que tous les ingrédients de la vie, si je puis dire, sont présents dans toutes ces manifestations. Par conséquent, pas de finalisme. L'homme a une tâche, et cette tâche, c'est d'assumer le mouvement créateur de l'être en son imprévisibilité.
Olivier Dilly.
Eh bien, l'évocation a été faite à deux reprises de Hegel au cours de notre entretien. Or, dans la manière dont vous nous exposez très clairement la place ici de la métaphysique de Bergson, est-ce qu'on ne peut pas voir, et spécifiquement aussi dans cet ouvrage ici, l'évolution créatrice, une philosophie de la réconciliation? On sait qu'un siècle avant la publication de l'évolution créatrice, né de l'autre côté du Rhin une grande œuvre de philosophie que vous connaissez très très bien, la phénoménologie de l'esprit. Philosophie qu'on présente généralement comme une philosophie de la réconciliation. Alors, ne peut-on pas voir un siècle après ici, dans une philosophie spécifiquement française, une philosophie de la réconciliation chez Bergson?
Oui, 1907, c'est une grande date. 1807 était une grande date. Je ne sais pas, 2007 n'est pas fini, si ça fait une grande date. Enfin, il ne faut pas fermer l'imprévisible nouveauté de l'élan philosophique. En tout cas, c'est vrai que ce deux ouvrages majeurs qui ont éclairé les siècles qui ont suivi. Je crois qu'effectivement, Bergson est un des deux grands penseurs du XXe siècle. Pour Hegel, c'en est incontestablement un, peut-être le plus grand du siècle précédent. Oui, des philosophies de la réconciliation, bien sûr, mais l'une par le système, c'est-à-dire une totalisation conceptuelle. Et dans laquelle la fin et le commencement se réunissent. Vous voyez, quoi qu'on ait pu dire, quoi qu'on ait pu penser, s'en réjouir, le regretter, le hegelianisme est une philosophie de la totalité close. Chez Bergson, il en est tout à fait différemment. Je le disais à l'instant, l'unité n'est pas au terme, elle est à la source. Et il n'y a pas de terme, ça va à l'infini. Dans la démarche, d'ailleurs, Hegel, pour résoudre les problèmes, prend appui sur toute la philosophie antérieure. Il est sans doute le seul philosophe, je le disais dans la conférence que j'ai faite à l'Institut, de l'histoire, qui n'ait pas prétendu être le premier. Les autres, ça a été surabondant. Ceux qui ont prétendu être les premiers, je ne vais pas les évoquer ici, non, parce que je ne les déprécie pas tous, sont très grands. Mais enfin, Hegel a toujours repris l'héritage de tous ceux qui l'ont précédé. Héraclite, pour parler de quelqu'un auquel on a assimilé Bergson. Héraclite, dit Hegel, d'Héraclite, il n'y a aucune proposition que je ne puisse pas faire mienne. Il a dit tout ce que j'ai dit ensuite. J'ai rien dit de nouveau. Simplement, j'ai essayé de régler les problèmes ou les contradictions en intégrant l'apport de toutes les pensées. Ça consiste bien à les modifier puisqu'elles deviennent des moments, elles ne sont plus absolutisées, mais elles sont la nourriture positive de la solution que je propose. J'ai gardé les problèmes, j'ai même gardé les solutions, simplement en les intégrant. Je suis un héritier, je suis l'héritier de tous les philosophes qui m'ont précédé. On a fait de lui un orgueilleux se prenant pour Dieu. Mais non, ils ont tous dit ce que j'ai déjà dit. Je le dis plus totalement. Bon. Bergson, c'est différent. Unifier ne consiste pas à dépasser, mais à régresser. Toujours, c'est la source qui est au principe. Il faut revenir à la source. Ouais. Revenir à la source, ça consiste à poser les problèmes de façon nouvelle. Montrer que les solutions étaient mauvaises parce que les problèmes n'avaient pas été bien posés, il faut les reposer de façon nouvelle. L'alpha n'est pas l'oméga. Hein. Revenir à la source, se replonger dans la source, assumer la source et non pas viser une synthèse impossible.
Alors, Hegel héritier de son introduction, Bergson, dans l'évolution créatrice, en annonçant la quatrième partie qui s'intitule « Le mécanisme cinématographique de la pensée et l'illusion mécaniste, coup d'œil sur l'histoire des systèmes, le devenir réel et le faux évolutionnisme ». Bergson nous dit que cette quatrième partie, est destinée à montrer comment, là je cite, « notre entendement lui-même en se soumettant à une certaine discipline pourrait préparer une philosophie qui le dépasse ». Donc, il s'agit, dans ce passage, de montrer les illusions propres au grand système de l'histoire de la philosophie, de poser à nouveau frais les problèmes. Pourquoi alors, si on revient sur notre comparaison avec Hegel, pourquoi la pensée de Bergson ne semble pas avoir eu, malgré tout, la postérité de la pensée hegelienne?
Qu'est-ce qu'on entend avoir une postérité? Avoir exercé de l'influence? Alors, il est manifeste que l'influence exercée par Hegel est considérable. L'influence exercée par Bergson, elle a quand même été considérable. J'évoquais Hippolyte parlant de lui-même et de ses amis, Canguilhem, Merleau-Ponty, etc. Hippolyte a bien souligné que Bergson avait exercé une influence considérable. L'être, c'est le temps. C'est un des grands thèmes du XXe siècle. L'autre grand penseur du XXe siècle, Heidegger, bon, l'être, c'est le temps. Nécessité de revenir à l'expérience. Bon, ça, c'est à l'existence. Parce que Bergson présente bien, dans l'essai sur les données immédiates de l'existence et dans l'introduction à l'évolution créatrice, son problème, c'est saisir le sens de l'existence. Alors, bon, l'existentialisme, etc. Et Hippolyte le dit, nous avons été trop injustes envers Bergson. Bien sûr, Merleau-Ponty, l'alter ego de Bergson, a célébré Bergson. Bon, Hippolyte a célébré Bergson aussi. Mais Hippolyte, nous avons été trop injustes envers Bergson. Il est vrai, remarque-t-il, qu'il y avait quelques excuses. Premièrement, pas de philosophie de l'histoire chez Bergson. Même les deux sources ne sont pas vraiment une philosophie de l'histoire. Le temps bergsonien n'est pas le temps essentiellement historique. Bon. Et puis, surtout, j'y touchais tout à l'heure, pas de philosophie de la négativité vraie dans ses aspects tragiques. Et le XXe siècle n'aura pas été économe des tragédies. Une sérénité bergsonienne qui peut-être n'était pas adaptée aux soucis de l'époque. L'optimisme serein de Bergson, voyez. Alors le négatif, il est là. N'est-il pas à l'origine non plus? Est-ce que la retombée n'est qu'une interruption du jaillissement? C'est-à-dire au fond, non pas la négation de celui-ci, mais simplement le fait qu'il s'arrête, qu'il est fini. Pourquoi est-il fini? Bon. Alors, tout cela fait que si Bergson a eu de l'influence, cette influence a toujours été accompagnée d'une certaine... Et je ne parle pas de critiques déplacées qui ont été dirigées contre lui. Mais Hegel, lui, a eu de l'influence. Il a encore été davantage méconnu et défiguré. Si on entend par postérité, non pas une succession, mais une succession qui corrige, qui rejette, qui fait une sélection, qui adapte, qui modernise, etc. Si on entend par postérité l'existence de penseurs qui ont philosophé comme Hegel et qui ont pu appliquer la démarche dialectique à de nouveaux champs de l'expérience ou à de nouveaux aspects découverts de l'expérience, est-ce qu'on peut dire que Hegel a une postérité? On peut au moins se poser la question. Être hegelianisant, oui, c'est une tâche difficile, mais enfin bon. Mais être hegelien, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'il y a eu vraiment des hegeliens?
Alors peut-être peut-on comparer, si on veut continuer la comparaison, avec une autre période, non pas un siècle avant, mais au XXe siècle aussi, on commençait, en parlant de l'évolution créatrice, vous commenciez à nous exposer la question de la méthode chez Bergson. Au XXe siècle, on peut penser à une philosophie qui, en plus, se présente comme science rigoureuse, la phénoménologie, qui, elle, va avoir tout de même une grande postérité au XXe siècle. Alors, pourquoi l'élan présent dans la philosophie de Bergson ne va pas se concrétiser véritablement autant peut-être que la phénoménologie peut le faire au XXe siècle?
Parce que la méthode de Bergson, qui consiste dans la pratique d'une intuition dont la dialectisation est nécessaire et inévitable, mais va toujours s'appuyer sur l'intuition et le contact avec le réel, cette pratique, au fond, de l'intuition, et aussi bien ce qu'elle a de négatif, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, de quoi faut-il s'élever, et puis comment faire. Cette pratique n'est pas une pratique, si je puis dire, le mot est extrême, codifiée. présenté architectoniquement, dans un ensemble de démarches qui seraient elles-mêmes définies et qui seraient elles-mêmes combinées les unes avec les autres et auxquelles on pourrait donc s'initier. Si vous voulez, la pratique de la méthode bergsonienne n'est pas une pratique qui a été elle-même mise en méthode. Par conséquent, il est bien difficile d'être bergsonien. Il est bien difficile d'être bergsonien, alors que la démarche husserlienne, où Husserl lui aussi a voulu faire de la recherche phénoménologique une recherche collective, voyez, alors que la recherche husserlienne, parce que la démarche telle que de la philosophie telle que Husserl l'a pratiquée, l'époquée, les époquées, etc. Cette démarche est une démarche qui met en œuvre finalement l'intelligence, la raison, en tant que celle-ci s'analyse, en tant que celle-ci peut donc se différencier en elle-même et s'exprimer elle-même d'une manière telle que il y a eu des analyses phénoménologique de style husserlien, même si ça n'a peut-être pas atteint la puissance de Husserl, il y a eu un certain nombre d'analyses de type husserlien, d'analyses de la constitution des phénomènes qui ont été entreprises. Il y a eu véritablement tout un courant, il est encore existant, phénoménologique, où chaque chercheur apporte sa marque originale, mais des recherches, aussi originales soient-elles, gardent un air de famille, voyez. Il ne me semble pas, il y a eu des bergsoniens, est-ce qu'ils ont véritablement innové? Je ne vais pas faire de la peine, sans doute, mais ils en avaient d'autant plus de mérite, parce que refaire le geste de Bergson, c'est bien difficile, vous voyez. C'est lié à, non pas simplement à la pensée dans la mesure où elle peut s'universaliser et se dire dans un discours, mais dans la mesure où elle émane d'une personnalité dans laquelle, parce que c'est une totalité, les éléments non intellectuels, non réflexifs, sont toujours très très importants. Si vous voulez, il y a une génialité bergsonienne qu'il est difficile d'imiter.
Bernard Bourgeois, quelle phrase ou quel passage de l'évolution créatrice appréciez-vous particulièrement? C'est pour conclure l'entretien.
Il y en a une que j'apprécie. Je les apprécie.
Et toutes, voilà.
Bon, je les apprécie toutes, non, c'est flamboyant.
Bien sûr.
Il y en a une que j'apprécie et parce qu'elle me paraît importante. Et d'ailleurs, c'est une phrase dont on peut retrouver, puisque vous m'avez invité à m'abandonner cette pente qui est sans doute excessive, en évoquant Hegel tout à l'heure, l'équivalent se retrouve chez Hegel. Hegel dit dans la préface de la phénoménologie de l'esprit que l'absolu est auprès de nous. Bergson écrit dans l'évolution créatrice, l'absolu se révèle très près de nous et dans une certaine mesure en nous. C'est ça le fondement de l'optimisme. Si vous le permettez, pour qu'on ne puisse pas considérer que puisque l'absolu est en nous, on n'a qu'à se laisser porter par lui, se laisser faire. Je voudrais, pour détourner d'une telle interprétation, évoquer une phrase d'un texte qui s'adressait aux lycéens et que j'évoquais tout à l'heure, au discours de distribution des prix au lycée Voltaire, au début du XXe siècle. Bergson ayant dit que la source profonde de toute énergie, même intellectuelle, est la volonté. Bergson, en une phrase, rappelle que si l'absolu est dans nous, et s'il nous porte, parce que nous sommes des êtres conscients, intelligents, parvenus à la capacité de nous saisir en notre totalité et de toucher ainsi à l'absolu. Nous ne pouvons pas ne pas assumer la présence en nous de cet absolu en agissant et en voulant, en faisant effort constamment pour être comme lui. Oui, cet élan qui doit éloigner de toute paresse, du tout fait, dans le rejet défini Bergson, Peggy, j'ai commencé par lui, je finirai par lui, disait qu'il y a quelque chose de pire qu'une mauvaise pensée, une pensée fausse, c'est une pensée toute faite. Bergson, l'adversaire du tout fait. Bergson dit avec tout à fait opportunité à ses auditeurs lycéens qui ont l'absolu en eux, qu'ils doivent quand même se mettre, si je puis dire, à l'unisson de l'absolu, la source profonde de toute énergie, même intellectuelle et la volonté, oui, par conséquent, l'avenir est à ceux qui se surmènent. Je voudrais en finir, si vous voulez, m'en tenir à ce propos de Bergson. Oui, l'avenir est à ceux qui se surmènent. On a tellement parlé du surmenage à l'école que je prends plaisir à évoquer ce grand propos de Bergson.
Merci Bernard Bourgeois de votre éclairage sur l'évolution créatrice d'Henri Bergson et merci à vous également Olivier Dilly d'avoir participé à la préparation et au déroulement de cet entretien. Chers auditeurs de Canal Académie, eh bien sachez que Canal Académie a réalisé plusieurs émissions sur Henri Bergson. Écoutez son portrait et la retransmission des communications du colloque de l'Académie des sciences morales et politiques que votre Académie, Monsieur Bourgeois, a organisé en septembre dernier autour de l'évolution créatrice. Merci beaucoup, c'est monsieur Bertrand Bourgeois. Merci, Olivier. Merci.
Cette agréable réunion pour célébrer quelqu'un qui a été évidemment un géant de la philosophie.
Merci à vous.
Merci.